enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Merci, élevez vos mains simplement. Merci mon Dieu pour Jean-Marc. On le reconnaît comme ministère apostolique. On te bénit pour nos frères d'Amérique latine qui sont venus. Et en le reconnaissant, on libérait quelque chose dans notre pays. Mais nous, en tant que Suisses, on veut le bénir et te dire merci au Dieu pour tout ce que tu lui as enseigné dans l'ombre. Et mon Dieu, libère ta puissance au travers de lui. Que ton épée se manifeste avec puissance, afin que ton peuple t'honore, te glorifie en esprit et en vérité. Merci éternel. Amen.
Bonjour. Hier soir, en vous disant qu'il restait 10 heures jusqu'à la prochaine réunion, j'étais loin de penser que c'est moi qui allais être sur le pupitre. Rien n'est impossible à mon Dieu. C'est quand même formidable d'être introduit comme ça et de penser qu'on est le meilleur. Donc, c'est bien d'être humble et fier d'être humble. Je m'excuse déjà auprès des traducteurs et traductrices parce que j'ai pas fait la faculté, j'ai un langage qui est pas forcément académique, mais mon langage, il trouve ses racines dans la terre et j'ai été formé à une école assez bizarre mais formidable, l'école du Saint-Esprit, on était deux. J'ai toujours été le premier de classe. J'étais seul avec le Saint-Esprit. Alors, j'ai fait des erreurs et ces erreurs, je vais les partager avec vous pour que vous les fassiez pas. Quelqu'un a dit, si tu veux savoir où le Saint-Esprit, où Satan agit, va voir où le Saint-Esprit agit. Et ça serait utopique de croire que dans une réunion comme celle-ci, l'ennemi est resté, il a pris congé. Je crois qu'il redouble, je crois qu'il essaye de vous séduire, parce que l'onction que vous avez reçue, quand le Saint-Esprit agit, il met en évidence, c'est comme un tuyau qui amène de l'eau propre, un tuyau qui n'a pas servi depuis longtemps, la première eau qui va arriver, il y aura de l'eau sale, jusqu'à ce que l'eau propre vienne. Ça, vous devez le comprendre. Alors, ne déduisez pas, ne faites pas le pas qu'il ne faut pas faire de dire, mais alors tout ce qu'on a vécu, c'est faux. Pas du tout. C'est pas ce que je dis. Quand vous mangez les poissons, vous laissez les arêtes et vous mangez ce qui est bon. Vous êtes d'accord? Spirituellement, il faut faire la même chose. Rien n'est impossible à mon Dieu. J'ai reçu une prophétie il y a 80, les Français, ça fait 80, mais je pense que vous avez grandi. Je l'ai reçu plusieurs fois, 4-5 fois. Au départ, ben, je pensais que c'était tout simplement en relation avec mon travail. Dieu abaisse ses regards sur les cieux, sur la terre. Du fumier, il retire l'indigent. Moi, comme je suis agriculteur, je me disais, ben Dieu, quand il a écrit le psaume 113, il a une pensée pour moi. Et puis ensuite, je me disais, mais comment ça va être possible pour les faire asseoir avec les grands de son peuple? Alléluia, rien n'est impossible à mon Dieu. Il faut pas seulement le chanter, il faut le croire. Je vais vous donner un certain nombre de clés pour que vous puissiez bien gérer les choses que vous recevez, elles sont fortes. Moi, j'ai souvent fonctionné en disant, mais Dieu, si j'avais vécu au temps où les apôtres étaient là, au temps où tu étais sur la terre, ça devait être tellement facile de vivre l'évangile. Alors, dans la communauté où j'ai vécu, où j'ai grandi, je me suis converti à 13 ans, on avait toute la vérité, sauf la vraie vérité. Je ne parle pas de la croix. On avait toute la vérité, mais il manquait beaucoup de choses. On ne croyait pas au baptême du Saint-Esprit. Donc j'ai cherché longtemps. Et je me souviens, en 74, j'avais été à Lausanne, ou en 73, 4, quelque chose comme ça. Ça fait vieux. Où j'avais été chercher, je cherchais la puissance. Et je savais qu'il y avait David Duplessis qui était à Lausanne. Et puis alors, j'étais pour l'écouter. Quand je suis arrivé, on a dit, ben, qui a présidé a dit que tous ceux qui sont venus écouter David Duplessis sortent. Donc si vous êtes venus écouter Anna, il vous faut sortir. Et j'étais déçu comme tout. Je me disais, mince, et puis le Seigneur a agi parce que c'est lui qui agit, c'est pas l'homme. Il y a une chose qui m'a impressionné, je ne sais pas si vous l'avez vécu par rapport à la guerre d'Irak. Lorsqu'il y a eu la guerre du Golfe, le 10% seulement des missiles et des bombes atteignaient leur but. Et cette dernière guerre, une dizaine d'années après, c'est l'inverse. 90% des missiles et des bombes ont atteint leur but. Et il y a 10% d'échecs. Si l'Église, Église, tu m'écoutes, si tu entres dans cette dimension, dans 50% de tes missiles que tu envoies contre le monde des ténèbres vont toucher. En 5 ans. Tu sais, dis ça. Et puis, il y a eu des commandos qui ont été envoyés pour que les bombes atteignent leur but. Parce qu'ils donnaient, ils ont... Moi, je connais rien à rien. Hein. Pour moi, c'est plus facile de vêler une vache un village difficile ou de chasser les démons, c'est si facile. Et je me régale de ça. Mais il y a des trucs que je ne comprends pas beaucoup. Je ne sais pas si Dieu lui-même comprend tout ce que les hommes font. En tout cas, pas. Et une sœur a reçu pendant la prière, là, tout à l'heure, que... Si j'avais un micro, là, ça m'énerve, ça, de... Il n'y a pas moyen de m'en mettre un qui tienne, là. Ce truc, les mains, moi, j'aime bouger, j'aime... Ils vont me l'amener. Par express. Une sœur recevait, là, tout à l'heure, que... On était comme des commandos, une partie de cet auditoire, anonyme, invisible, aux yeux de l'ennemi... Et qu'on était en train de mettre des charges d'explosifs dans beaucoup d'endroits et que Dieu allait les faire sauter à des moments stratégiques, à des moments précis, quand ça sera son temps. On est en train de mettre en place des choses et moi je suis enthousiasmé pour ça. Alors j'ai dit qu'il fait chaud avec ce truc-là, un qui boit, tout le monde a soif. Un boit, tout le monde a soif. Non, c'est du blanc pétillant. Pauvre traducteur et traductrice. Soyez bénis. Il y a Vincent qui dit Amen parce qu'il sait. Donc, je vais vous donner quelques clés. Ensuite, on va s'attaquer à la pensée grecque, aux esprits religieux. Si vous êtes religieux, vous allez avoir du pays, là. Oh là, vous allez souffrir. Parce que je suis très exercé. On est issu de familles extrêmement religieuses, très légalistes. C'était trois, notre vie, pas danser, pas fumer, pas boire, pas aller au cinéma, pas... Étroit, très étroit, une rayon pyjama, pas plus. Mince! On avait vraiment... on était les meilleurs, quoi. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux, c'est du français... Est-ce que vous savez qu'il y a une partie importante des prières que Dieu ne comprend pas? Il y a ces prières qu'on fait, on donne le prénom de la personne, son âge, le décret de parenté avec d'autres, on dit ce qu'il a, il a, tu vois, Dieu se goitre, il a encore augmenté cette semaine. Et puis Dieu écarte les nuages et dit, bon, j'ai jamais vu ça, moi. Et on en apprend des choses à Dieu lorsqu'on prie. Et peut-être qu'on le fatigue. Alors, qu'il faut prendre? Alors, Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide. Dieu n'a jamais rien créé d'informe et vide. Il y a eu un combat spirituel de haut niveau qui a fait que la terre a été détruite. C'est le début d'un combat spirituel entre deux puissances, entre Dieu et le monde des ténèbres. Vous lisez, j'ai pas le temps de vous donner, il y a tellement de choses à dire. Ésaïe 14, Ézéchiel 28, vous allez voir qu'il y a une création qui a été détruite. Et peut-être, c'est pas important de le savoir, les mauvais esprits sont-ils de cette création-là? C'est une hypothèse, mais c'est pas important. L'important, c'est d'avoir une libération. C'est pas grave, mes amis, d'avoir des mauvais esprits. J'espère pour vous que vous en êtes bourrés de la tête aux pieds. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, ça serait de les garder. Vous aurez l'opportunité tout à l'heure. C'est 2,50 francs par personne. Le prix n'a pas changé. Avant, c'était 1 euro, là, j'ai baissé. C'est important, mes amis, de participer et d'entrer en délivrance. Dieu ne vous promet pas aujourd'hui une délivrance complète. C'est impossible. La délivrance, c'est un processus. Parce que vivant une délivrance tout à l'heure, tout d'un coup, vous allez vous rappeler que vous devez peut-être demander pardon à votre femme, à votre mari, à votre employeur, à vos employés, à vos enfants, à votre pasteur, à quelqu'un. Et votre pardon va ouvrir la porte à quelque chose d'autre. Admettons que vous avez plusieurs dents qui vous font souffrir, pour les raisons qui sont les vôtres, négligence, sucette le soir avant d'aller au lit. Le médecin dentiste, il va s'occuper de la dent qui est la plus malheureuse dans le coup. Et ensuite, vous allez vous dire, le mal, il est dominant. Et ensuite, vous allez vous dire, mais alors, maintenant, j'ai mal de l'autre côté. Parce qu'il y a un mal dominant qui enlève aux autres puissances de vous faire souffrir. Si vous avez des pensées de suicide, de mort, de dépression, c'est un mal qui est extrêmement dominant. La mort, dans les humains, c'est affreux. Ces conseils de mort, je les avais un peu, je sais ce que c'est. Et alors si on vous libère d'un esprit de mort, après vous allez vous dire, mais cette critique, ça vient d'où, cette médisance? Donc Dieu va vous conduire à aller plus loin. Vous pourrez pratiquer l'autodélivrance, je vous dirai comment on le fait. Ce que je vais vous conseiller de faire, surtout le partager avec personne. Si vous voulez perdre une bénédiction, parlez à des personnes qui ne comprennent rien à la délivrance et vous allez tout perdre. Et puis vous avez perdu 2,50 francs. Alors, nous avons ici le début d'un combat impressionnant, terrible, où en Éden, ensuite, le diable va se démêler, il va se démener pour essayer de vous stopper dans votre marche. Il y avait une prophétie, un chant prophétique, je vais mettre un fardeau sur toi. Le fardeau du Seigneur, c'est mon joug est facile, mon fardeau léger pour le repos de vos âmes. Tout ce qui est un joug, tout ce qui déclenche en vous une souffrance n'est pas de Dieu. La maladie n'est pas de Dieu. La mort n'est pas de Dieu. On sait qu'on doit y passer. Moi, j'espère l'enlèvement avant. J'aimerais tellement avoir cette fusée, la pouvoir voler. Ce serait formidable. Oh, alléluia, c'est bon ça. Mais l'ennemi va essayer de mettre un joug, et tant que tu es focalisé sur tes problèmes, tu n'auras jamais la victoire, tu ne seras jamais un combattant, tu vas souffrir toute ta vie, c'est ce que j'ai fait jusqu'à 41 ans. Je suis né dans une famille chrétienne, je me suis converti à 13 ans, ma femme est aussi d'une communauté chrétienne, j'ai été ancien rapidement dans l'église, j'allais au culte, j'étais fidèle aux réunions de prière. J'étais fidèle dans ma communauté, mais j'étais bourré de problèmes comme un chien de puce. Donc il y en avait. Les peurs, les angoisses, je me réveillais la nuit, bloqué au plexus, transpirant, des pensées, je me suis converti 50 fois, l'ennemi me matraquait, il m'enlevait l'assurance du salut. Je savais que j'étais converti. Après c'était les paniques, les esprits impurs, j'ai jamais trompé ma femme, j'étais matraqué dans mes pensées. Ensuite, qu'est-ce que c'était? Mais c'est long, il y a tellement de choses, la peur du cancer, je me tâtais, je me disais, j'étais sûr, j'en avais une trouille pas possible, alias la peur, les traducteurs. Une trouille pas possible du cancer. Et je me sentais pour me prouver que ce qui me faisait peur était là. Débile complètement, mais spirituel, parce qu'on m'avait pas enseigné. Et puis j'avais tous les symptômes de l'infarctus, j'allais trouver mon médecin, et puis mon médecin me disait, mais tu n'as rien du tout. Mais sans la délivrance, en 1975, je serais mort, parce que la mort avait un droit sur moi. Et quand l'ennemi a des droits, il y va jusqu'au bout. Parce que l'Église a failli, l'Église n'a pas obéi au commandement de Dieu. Elle a compris, allez, faites des disciples. Mais elle n'a pas compris, chasser les démons. Comme par hasard en premier, libérer le peuple de Dieu. Frères et sœurs, dites-moi, vous qui êtes intelligents, comment se fait-il que le prince de ce monde ait pu s'introduire dans le jardin d'Eden alors que le mot péché n'existe pas encore? Alors que le monde est aseptisé, ils ne savent même pas qu'ils sont nus. Il y a une telle relation avec le maître, et le prince des ténèbres est venu. Comment se fait-il? Comment alors? Suivre ce qu'on nous enseigne. Impossible à un chrétien d'avoir un mauvais esprit. Ah bon? Impossible? Non, parce qu'il n'est pas à l'aise. Ah? Pas à l'aise? Est-ce qu'il est à l'aise avec l'adultère? Est-ce qu'il est à l'aise avec Alzheimer? Est-ce qu'il est à l'aise avec les gens qui sont suicidaires et qui se suicident? Est-ce qu'il est à l'aise avec un cancer qui ronge? Imaginez le Saint-Esprit à l'aise. Quelle caricature d'un Dieu repoussant qui, du haut du ciel, lancerait la mort, lancerait les cancers, lancerait les maladies pour qu'on finisse lamentablement en montrant au monde qu'on a un monde, un Dieu qui est sans effet, qui n'a aucune puissance. C'est une horreur, une abomination. Et Jésus a souffert autant pour ta souffrance vis-à-vis du monde des ténèbres. Jésus a souffert la même souffrance à la croix pour tes maladies qu'il a souffert pour tes péchés. C'est la même souffrance, c'est les mêmes clous, c'est la même agonie. C'est la même souffrance, le combat. Un geste du maître et tout était fini. Dans le jardin d'Éden déjà, lorsqu'il suait des gruaux de sang, il était confronté à Satan qui essayait déjà de le détruire avant qu'il monte à la croix. Quelle souffrance! Je mettrai, frères et sœurs, je mettrai inimitié. Chapitre 3, verset 5, inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça veut dire que nous sommes dans un combat. Plus vous allez obéir, plus vous recevrez d'onction et vous la recevrez, plus l'ennemi va frapper dans la semaine qui vient. Vous devez être capable de résister, de dire non, je ne me laisse pas avoir. L'exemple tout simple, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, le Seigneur vous touche. Eh bien, demain, si la réunion finit ce soir, l'ennemi viendra vous dire c'est toi qui parles en langue. Et puis les gens sont comme ça et ils disent c'est terrible. Ben, bien sûr que c'est toi qui parles en langue. Si tu parles, c'est toi. Sois logique. Si tu prophétises, c'est toi. Les gens me disent j'ai perdu mes bénédictions, j'ai perdu ce que Dieu m'a donné. Moi, j'essaye de chercher. Il a perdu, il est où? Qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu. Il y a un ébranlement du système religieux qui vient. Satan est venu sous trois aspects en Éden. Il est venu, premièrement, il est venu déguisé. Tout ce qui est déguisé est un faux. Et s'il y a un faux, c'est qu'il y a un juste. Il est venu déguisé, il a caché son identité. Et vous devez savoir qu'il va se déguiser. Il y a un ange de lumière, Matthieu 24, Jésus dit trois fois, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Frères et sœurs, nous devons arriver dans un temps où les hommes et les femmes auront la capacité de faire la différence entre ce qui est de Dieu, ce qui est de la chair et ce qui est du monde des ténèbres. Ne croyez pas que tout est de Dieu, et les orateurs sont d'accord avec ce que je dis. Ce serait complètement faux de jeter le bébé avec son bain. Ce serait complètement faux d'amener sur vous une crainte excessive de ce que le monde des ténèbres veut faire. Mais lorsque nous sommes avertis, lorsque nous faisons attention, alors nous sommes vigilants. Une fois, mon père me disait, est-ce que tu crois que tous ceux qui se sont tués en voiture, si le même jour on lui avait dit, attention, aujourd'hui tu auras un problème, pensez qu'ils auraient roulé comme ils l'ont fait? Peut-être endormi, peut-être glissé sur de la neige, de la glace? Faisons attention. Il est dissimulateur, il se cache, il mélange la vérité et le mensonge. C'est le vrai, c'est le faux. C'est, il y a une pénétration avec ce mensonge noir, noir, blanc, gris, juste entre deux, qu'est-ce que c'est? Et c'est pas toujours facile. C'est un menteur habillé, de camouflé, et il se plaît dans le déguisement. C'est l'ennemi de la vérité. Il est venu en Éden, et il a gagné. Ève a succombé. C'est la première tentation. Il a succombé. S'il échoue à la première tentation, il en trouvera une autre. Il va la chercher. Et sur quoi il va vous atteindre? Il va vous atteindre sur les droits qui sont les siens. Une femme qui se fait avorter va transmettre sur sa descendance un droit de mort et de meurtre. Le nombre de femmes qui m'ont dit, en hurlant leur souffrance, combien de fois j'ai eu la pensée, j'ai même pris un couteau pour tuer mes enfants. Régulièrement, je suis confronté à des femmes. Donc la mort, par l'avortement, la mort vient sur ta vie et sur tes descendants. Et il y a une prière spécifique. Si tu demandes un pardon à Dieu, ça ne va pas changer grand-chose au problème. T'es pardonné. L'exemple est brutal, mais moi, si je mets une femme enceinte en dehors du mariage, j'ai beau demander pardon à Dieu, ça ne va rien régler. Donc, il y a quelque chose qui nous faut tenir par rapport aux conséquences. La mort. La mort, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner la déprime. Ça va, les pensées de suicide, le suicide, la mort spirituelle du couple, la mort sentimentale du couple, la mort dans la famille, la mort dans les affaires. Partout où vous pouvez mettre le mot mort, vous pouvez le connecter. Et quand j'ai des personnes qui viennent et qui ont des problèmes de dépression, on trouve presque toujours la mort. Il y a un deuxième aspect qui est là. Il aurait pu y échouer, hein. Il avait peur d'être connu. Donc il s'est déguisé, on l'a vu, il avait peur d'être connu. Et Adam et Ève sont tombés dans le piège. Le plan de Dieu a complètement échoué. Il y a une désobéissance. Les humains ont perdu leurs droits au travers de cette chute. Et puis le troisième aspect, il attaque le corps humain et les besoins physiques, les besoins sexuels. Vous comprenez, je passe rapidement sur cet aspect. Et c'est extrêmement fort. Cet ennemi vient pour nous séduire, nous tromper, nous faire chuter. Et si vous voulez, il y a trois zones, trois parties de notre être sur lesquelles l'ennemi va essayer de frapper. C'est des zones qui sont notre propriété, qui sont la propriété de l'Église. Et si nous laissons l'ennemi prendre pied, alors il y aura beaucoup, beaucoup de dégâts. C'est des endroits sur lesquels vous devez veiller. La première zone stratégique, c'est les pensées. 2 Corinthiens 10:5, nous renversons les raisonnements et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a un combat dans vos pensées. Et au fur et à mesure que je parlerai, quand tu diras, il a le vieux là-bas, le grand-père, 9 fois, est-ce qu'il n'a pas bientôt fini? Il nous énerve un peu avec son histoire. C'est la preuve flagrante que tu as un besoin de délivrance. Parce que les esprits qui sont en toi sont en train de se manifester et tu dis, non, ça va pas, j'aime pas ça. La deuxième porte, c'est le cœur. Et le Proverbe 4:23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et puis la troisième, c'est la langue. Par elle, on bénit, on maudit, Jacques 3:5, un petit membre. Elle se vante de grandes choses, c'est le monde de l'iniquité. Elle souille tout le corps et elle enflamme par un feu qui vient de la Genèse. Vous avez la responsabilité que vos gardes de corps spirituels, avec votre amen et votre volonté, veillent sur ces trois aspects. Frères et sœurs, les boutons de l'ascenseur sont à l'intérieur. C'est moi qui dis oui au diable, c'est moi qui dis non, c'est moi qui dis oui à Dieu, c'est moi qui dis non. C'est à l'intérieur, mes amis, et vous n'avez qu'à zapper. C'est un choix, c'est déterminant. Votre vie de victoire dépend de la manière où vous allez dire oui ou vous allez dire non. Le oui et le non ou le non va déclencher chez vous un crescendo ou un décrescendo de vie de victoire ou de défaite. Donc, soyons attentifs. Donc, on a vu, il attaque le corps humain où il essaye de toute façon de vous battre et de vous avoir. En Éden, il gagne. Au désert, il perd. À la croix, il perd. Alléluia. Réagissez! Il l'a vaincu! Il y a la plus grande attaque jamais connue sur le monde. Ça a été dit, si vous prenez des cassettes, je l'ai dit, je l'ai redit depuis de nombreuses années. Il y a le feu de l'ennemi sur l'église fidèle, pas sur l'autre. L'autre, elle est morte. Quand quelqu'un est mort, on le laisse tranquille au moins. Mais il y a le feu du diable contre l'église de Jésus-Christ, fidèle, qui croit à la puissance, qui croit au baptême du Saint-Esprit, au baptême d'eau par immersion, à la guérison des corps, à la libération des captifs. Dieu veut vous rendre libre. Jusqu'à 41 ans, chrétien, engagé, ancien, je bouffais du sable, je mangeais. Je bouffais du sable. Mais c'est ça, manger, c'est rien. Je souffrais, j'avais aucune réponse. Et je riais, j'avais la bouche à 10h10, alors qu'elle aurait dû être à 8h20. Tout criait, tout souffrait en moi. Et je disais, Dieu, à quoi ça sert ta parole? S'il n'y a pas de réponse. Et il y a eu un homme qui osait me dire, tu as besoin de délivrance. Et j'ai fait des sauts, c'est plus haut que ça. Je voulais le griffer, lui cracher dessus, parce que les esprits religieux en moi étaient touchés. Mais j'ai obéi, j'ai cru et Dieu m'a libéré en 1975. Dieu savait qu'il avait besoin de moi, moi je ne savais pas, j'ai jamais pensé que Dieu pourrait m'utiliser. Mais il a permis que les cieux s'ouvrent, j'ai entendu les anges. Chaque fois que j'entends l'onction, je dis « Dieu, est-ce que je me rapproche un petit peu ?» Il dit « Non, non, c'est pas. » Hier, il me semblait qu'il y avait quelque chose qui est en train de se préparer. Et moi, je rêve au moment où vous allez pouvoir entendre ce que j'ai entendu. Ça a changé ma vie. 25, 30 ans bientôt, en 75. Bientôt, 28, ça fait. Et rien, je sais que Dieu a fait quelque chose pour ma vie. Il m'a libéré d'esprit impur. J'ai été complètement libéré. Et ça a changé. Et je pleurais dans ma ferme en disant, Dieu, les autres, qu'est-ce que tu peux? Si moi, le juste, le saint, celui qui a qu'une rayon au pyjama, qui a été élevé entre deux bibles peut-être conçu avec la Bible à la main, j'en sais rien. Non, mais ils étaient saints et religieux et... Bon, il y a un moment où ils ont dû la lâcher, mais... Moi qui ai baigné dans la parole de Dieu, j'étais si plein de problèmes et ma vie a complètement changé. Je suis un fermier, je suis un paysan, je sais que si on sème du blé qui vient des citrouilles, il y a un problème. Je sais que les lois spirituelles et les lois de la nature sont si proches. Dieu m'a tellement aidé au travers de la nature, au travers de la ferme, au travers de ce que je vivais, des mauvaises herbes qui viennent. Les mauvaises, il n'y a pas besoin de les cultiver, elles viennent toutes seules. Les bonnes, il faut les planter, il faut les semer, puis il faut encore les protéger, les traiter, n'en déplaise aux écolos, mais c'est comme ça. Et c'était ma vie. Et quel changement! La première chose que le Saint-Esprit a fait, il s'est acheté un hamac et il s'est reposé en moi. Tellement il était heureux, tellement il était à l'aise. Vous savez, Dieu m'a vraiment parlé de dire, quand tu veux faire des délivrances, fais rire le peuple de Dieu. Parce que lui, il pense que les chrétiens qui sont constipés, ils ont des problèmes. Et les délivrances, elles ne marchent pas. Et le rire, on est en train de provoquer l'ennemi. Parce qu'on a un Dieu joyeux. Nous, dans notre église, on avait la prière WC. Vous savez, il y a le panneau derrière. Laissez cet endroit comme vous l'avez trouvé. Donc, pour les toilettes, on est d'accord. Mais à l'église... Oh, et en 1974, quand je cherchais là, j'ai été à la cathédrale à Lausanne, c'est grand, il y a des orgues derrière, c'est beau, hein. Attention, c'est magnifique. Tout le monde était recueilli. Il y avait quand même des dames qui regardaient les chapeaux des autres, je voyais moi. Mais ils étaient bien, et puis tout d'un coup, il y a un homme qui a levé un bras, j'ai dit, il doit avoir un problème, personne ne voit rien, pas de service d'ordre. Et moi, j'étais constipé comme une baïonnette, là, comme ça, et puis... Je sentais que le Saint-Esprit était en train d'actionner mes bras, et puis... Je montais, mais... comme un lapin. Et puis après, j'ai pu louer Dieu. Mais quand on peut louer Dieu, moi, je suis descendu d'un tracteur, levé mes bras, loué Dieu dans un champ de foin. Mais il m'a compris. Alléluia. Il faut revenir à la simplicité de l'évangile. La tentation que vous aurez, les combats que vous aurez demain, après-demain, sont du Saint-Esprit. Lorsque dans Luc 4, Jésus a été entraîné, conduit, poussé par le Saint-Esprit avait préparé le rendez-vous. On est d'accord. Quel est le but du test? Quel est le but de la tentation? La tentation, c'est le test. C'est d'éprouver vos armes. Encore faut-il en avoir. La tentation a pour but d'éprouver vos armes et de mettre l'ennemi en fuite. Et il a, comme par hasard, le Saint-Esprit choisi le désert. Donc l'ennemi, vous allez peut-être être confronté à un moment où vous n'êtes pas forcément dans la complète victoire. Rappelez-vous de la clé que je vous donne maintenant. Jésus, après beaucoup, 40 jours de jeûne, a été confronté dans le désert. Un coin qui est familier au monde des ténèbres, mais qui ne l'était pas pour Jésus, et il l'a vaincu. Alors, soyons vraiment sur nos gardes et croire que Dieu va complètement changer nos vies. Le problème, maintenant, la Bible, Job dit que le roi des épouvantements, c'est la mort. Moi, je vous dis que le roi des épouvantements, pour les chrétiens, c'est les esprits religieux et le légalisme. Dites Amen, fort!
Amen.
Ils ont tout mangé dans le sanctuaire. C'est les pharisiens d'avant. Ils discutent la parole, ils la pourfendent, mais ils l'ont jamais mise en pratique. Moi, j'ai vécu dans une communauté où on expliquait les miracles. C'était savant. Il y avait des termes, plus les termes étaient compliqués, moins on comprenait, mais au moins on disait c'est savant, parce que eux, ils avaient compris, mais nous, il fallait prendre les miettes qui restaient. Et le problème, c'est que je suis devenu incrédule, parce qu'ils ont expliqué les miracles que j'en ai jamais vus. Le légalisme va toujours de pair. On est tous confrontés par le légalisme. On est tous, qu'on ait été élevé chez les chrétiens ou pas, il y a une éthique de famille, il y a un mode, il y a une manière d'être élevé. Hein, vous connaissez mon truc. Moi, j'ai marié une femme un peu perfectionniste, mais ayant découvert la délivrance, elle s'est corrigée. Heureusement qu'elle n'est pas brouillon. Et moi, j'étais comme une poule qui se secoue avec un tas de plumes. Donc, c'est clair que ça faisait quelques étincelles. Heureusement qu'il n'y avait pas de paille tout près. Le feu s'est arrêté là. Mais le légalisme veut faire de toi quelqu'un qui fonctionne par la loi en faisant des choses, en faisant l'économie de la foi. Le légalisme, je crois que ce qu'il y a de plus pointu dans le légalisme, c'est que ça véhicule toute dimension de foi. C'est beaucoup plus facile de marcher avec des lois que de faire confiance à Dieu. Et je ne sais pas si vous me suivez. J'espère que vous avez quand même bien dormi. Tant que vous faites des choses pour Dieu, ça ne marchera jamais. Il n'a pas besoin de nos œuvres, il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin d'Anna, il n'a pas besoin de nous. Mais c'est par grâce qu'il nous fait confiance et qu'il nous délègue des pièces de puzzle pour que nous puissions le partager avec le peuple, pour que vous deveniez des vainqueurs dans votre quotidien. Et lorsque le monde, croyez qu'il va, vous pensez que c'est les vacances dans le monde des ténèbres, la semaine prochaine, ça sera le matraquage. Oui, mais est-ce qu'il n'y avait pas un peu, on est dans une ambiance, oh, on nous force. En tout cas, on ne pourra pas dire que Fernando vous a poussé. Moi, j'étais derrière et il fallait faire vite pour... Mais il va attaquer comme ça. Il va vous faire douter. Il est venu en Éden, il a fait douter. C'est pas pour rien que je reprends ce processus. Le perfectionnisme, les esprits religieux, le légalisme, c'est comme une locomotive sur laquelle beaucoup de wagons vont se coller les uns aux autres. Le légalisme va avec le perfectionnisme. Le perfectionnisme en soi, c'est mieux que d'être brouillon. On est d'accord. Tout dépend, il y a une certaine mouvance. Mais lorsque, en tant que perfectionniste, tu fais projection sur ta femme, sur ton mari, sur tes employés, sur ton église, tu entres de plein fouet avec un esprit de contrôle et de manipulation. Et le contrôle, c'est la sorcellerie. Et derrière tout ça, il y a la puissance de Jézabel, on remonte, c'est extrêmement facile à découvrir. Mais on ne peut pas, on doit conseiller, on donne des conseils à nos enfants. Vous verrez si vous voulez, si c'est à venir, ceux qui sont plus âgés savent de quoi je parle. Quand vous, après le permis de conduire de votre fille ou de votre fils, ben, il va devenir demander la voiture à papa. C'est pas forcément la meilleure nuit que vous aurez de l'année, hein, parce que s'il est en retard, il y a tous les schémas qui vont venir, accidents, je ne sais pas quoi. Donc, il y a une question de confiance à quelqu'un qui, à qui on fait confiance, mais qui est en formation, on ne contrôle pas. Le contrôle fait partie du légalisme. On est pris par la parole de Dieu. L'ennemi, sans qu'on s'en rende compte, nous contrôle mentalement. Plus nous sommes religieux, plus nous pourfendons la parole de Dieu, nous la disséquons, et plus la foi, on ne peut pas dire s'élimine, parce qu'il n'y en a déjà point. Donc, s'il n'y a rien, comment on peut enlever s'il n'y a rien? Il ne reste plus rien. L'odeur d'un P, c'est tout. C'est dans le dictionnaire, j'ai encore regardé. Il ne reste plus rien. Donc ce légalisme va vous pousser toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus prier, toujours plus, toujours plus, toujours plus, et on entre dans des œuvres. Et plus tu fais, plus tu es desséché. Plus t'as faim, plus t'as soif, il n'y a pas la liberté. Tu peux prier en voiture, tu peux prier n'importe où. Tout, partout, tu peux prier, t'as une communion, prier sans cesse. Et puis il y a les temps que tu mets à part. Le légalisme, le perfectionnisme, l'insatisfaction de celui qui est dans le légalisme. Il est jamais, c'est jamais assez bien. Même si c'est bien, il faut que ce soit encore mieux. Il y a une sécheresse, c'est terrible spirituellement. On voit quelqu'un qui tremble un peu. Bon. Alors on aimerait trembler comme lui, puis on essaye. Pourquoi pas? Il faut pas que ça dure trop longtemps, sinon on dirait on est un problème. Mais, ça me paraît tellement simple d'être moulé dans ce que Dieu veut. On a tous quelque chose de Dieu. Tous. Dieu te dit ce matin, mon frère, ma sœur, sans exception. Dieu te dit, je t'ai donné des dons naturels. La danse, c'est beau. La musique, la louange, la décoration peut-être. Moi, j'ai toujours ceux qui viennent chez moi, ils sortent très bien, il y a toujours des bouquets de fleurs. Tellement de choses. On se complique la vie, on a tous des dons naturels. Dieu te donne des dons spirituels, cherche-les. Et qu'est-ce qu'il te dit? Je t'ai donné des dons naturels. Le fait que tu vives n'est pas un hasard. C'est mon projet. Le fait que tu sois là n'est pas un hasard, c'est mon projet. J'ai voulu que tu entendes ce qu'il a dit. Mais je te dis une chose, mon frère, mon fils, ma fille, je te donne les dons, j'attends le fruit. J'attends le fruit, ça n'a pas de sens. Si Dieu te donne, que tu ne redonnes rien à Dieu, ça n'a pas de sens. Comme nous donnons à la terre la graine, les pommes de terre, la semence, aux animaux, nous attendons le fruit qui est normal. Il y a le fruit, c'est pour me réjouir, pour réjouir Dieu, pour nourrir, pour te nourrir, pour nourrir les autres. Le fruit, Dieu attend le fruit de ce qu'il te donne. Dieu attend dans la semaine prochaine le fruit de ce que tu as vécu. Le témoignage, ta main qui se pose sur quelqu'un, sur tes enfants, le pardon à ton mari, à ta femme, à tes enfants, entrer dans quelque chose, je t'ai donné. Et l'ennemi va essayer de tout te voler. Est-ce que tu comprends comment ça fonctionne? Nous luttons avec les prédateurs, les sangliers qui longent les lignes de maïs et puis qui prennent la graine. S'il prend la graine, il n'y a pas de récolte. Spirituellement, le prédateur veut venir te voler. Comment il va te voler? Sur les droits qui sont les tiens, sur les pratiques occultes que tu as faites, celles de tes pères, tous les écarts sexuels, les avortements, les pactes, les alliances, les films d'horreur, les films de débordement sexuel, je vous assure, dans notre ferme, les animaux ne font pas sexuellement ce que font les humains. Et je crois qu'il y a une puanteur qui monte au cœur de Dieu. Il faut changer, il faut crier à ce Dieu pour dire « Libère-moi de ces esprits, c'est pas grave, c'est juste, le pain, la délivrance est le pain des enfants. » Comment peut-on chasser des mauvais esprits à quelqu'un qui croit pas en Dieu? Frères et sœurs, expliquez-moi, après bientôt 30 ans de ministère, comment chasser des esprits à quelqu'un qui croit pas en Dieu? C'est possible, mais ils vont revenir. Et c'est possible, bien sûr, s'il se convertit après. Mais l'Église, aujourd'hui, de dire « je quitte ma femme ou mon mari la semaine prochaine et je vais pas le lui dire samedi parce que je veux encore lui laisser vivre un plus ou moins bon culte, mais lundi matin, je lui dis « je te quitte », ça, c'est sur des mois, c'est sur des années où on s'est battu, on essayait de se battre et on n'a pas eu la réponse. Quand dans la parole de Dieu, Paul nous dit que dans 1 Corinthiens 11, par rapport à la scène, que celui qui mange et boit sans discerner le corps, celui qui est indigne, mais qui est digne de prendre la scène, on en a fait une histoire. C'est parce qu'on peut dire Jésus, à cause de ton sang versé, je suis devant toi et je suis digne, simplement je le prends. Mais le problème du corps, vous pensez que parce que des païens sont venus prendre indignement la Sainte Seine, il y a des morts et des malades dans l'Église, c'est pas ça, c'est une abomination. Il y a beaucoup de chrétiens pratiquants qui sont bien plus dignes de prendre la Sainte Seine que beaucoup de chrétiens. Oui, de païens, vous avez compris. Traduction, vous suivez. Mais lorsqu'on ne discerne pas le corps, c'est quoi le corps? C'est ton enveloppe, il est la tête, nous sommes le corps. Si dans le corps on ne voit pas les cinq ministères, si on ne discerne pas les ministères de guérison et de délivrance, vous allez mourir. Et on dit, Dieu, qu'est-ce que je prie et rien ne se passe. Parce que le prince des ténèbres est en train de te tuer. Dieu a besoin de toi. Dieu t'a choisi pas pour que tu sois détruit par le prince des ténèbres, mais pour que tu vives et que tu sois une semence de vie et de résurrection. Alors ces esprits religieux sont venus, c'est jamais assez bien, même si c'est bien. Et imaginez les conséquences avec Dieu. Ça sera jamais assez bien avec Dieu. Il faudra toujours plus d'exigences. Des fois, moi, je suis simplement devant Dieu et j'ai dit, mais Dieu, qu'est-ce que je peux te dire? Je ressens ton amour. Des fois, c'est en trayant les vaches. Je fais ça, hein, pour mes fils, j'aime ça, moi, parce que un troupeau de vaches, c'est beaucoup plus facile à mener que les chrétiens. Hein. De temps en temps, un coup de pied, mais une vache, un cheval, tu lui donnes à manger, il respecte ta main. Un chrétien, tu lui donnes à manger, il te mange la main. Vous voyez, moi, j'ai trois doigts de loin. Hein. Et il te mange et puis il te bouffe. Donc je sais que c'est pas nous, mais les autres, hein. Non, mais c'est si simple d'être devant Dieu. De décontracter, pas imaginer des choses, mais dire Dieu, j'ai tellement besoin que tu me changes. Et puis j'agis au travers des œuvres, et ça marchera jamais, l'ennemi rigole. Le pasteur Karambiri me disait au mois de décembre, il disait, les sorciers africains rigolent par rapport à certains missionnaires et évangélistes que vous envoyez en Afrique, les sorciers disent qu'ils n'ont aucun pouvoir. Et ils rient. Et on devrait pleurer. On devrait s'humilier, on devrait se repentir. Il faut la puissance aujourd'hui. La puissance d'un Dieu qui libère. Jamais assez bien avec le légalisme. C'est tragique, c'est horrible. Alors, comment tu peux toucher Dieu? Comment tu peux fonctionner? Lorsque ces esprits te matraquent, tu es indigne, tu peux pas. La preuve, s'il peut sortir quelqu'un du fumier au propre et au figuré pour faire quelque chose, alors il peut le faire avec toi. Là, vous avez la preuve. J'ai fait la faculté de Vaud. Alors pour les traducteurs, il y a une ville en France qui s'appelle Vaud. Et voilà. Mais je suis à l'aise parce que vous croyez que Dieu vient à l'écurie aussi, le Saint-Esprit. Vous pouvez croire ça?
Amen.
Sûr?
Oui. Nous, on a un frère du groupe de prière, il donne à manger à ses vaches, Saint-Esprit tombe dessus, il commence à chanter en langue, sa fourche tombe, il louait Dieu de tout son cœur, il était touché puissamment. Ça, c'est mon Dieu. Il n'est pas religieux, il n'est pas légaliste, il connaît ma souffrance et il m'a rejoint au cœur de ma souffrance. Alléluia, Dieu est fidèle. Le légalisme a une attente extrêmement élevée. Et si vous êtes là, vous n'y arriverez jamais. Je me sens en prison, je suis dans un mur, je suis ficelé, j'ai complètement... Et vous savez, je sais ce qu'est le légalisme. Parce que j'ai dû le combattre pour ma femme et ma fille. Et je sais que Dieu utilise souvent avec mes enfants des choses difficiles pour que je puisse les comprendre. Si tout avait été comme ça, je prie pour Lynn, elle a des réactions, je prie pour ma femme, elle n'en a point. Donc j'ai dû comprendre que tout le monde n'a pas des réactions lorsqu'on prie. Et ça m'a aidé. Toujours plus. Et mon cœur est froid, et il est enfermé, je ne ressens plus rien, j'en vois tout balader. Dieu, tu me réponds plus. Je prie, je jeûne, je cherche. Et qu'est-ce qui va venir? Un wagon de rébellion. C'est un problème de base de la jeunesse. Un des signes de la rébellion des gars, c'est de se mettre des boucles d'oreilles. Je sais que quand je dis ça, j'ai pas le parfum de tout le monde. Moi, je prie jamais pour un gars qui n'enlève pas sa boucle d'oreille. Je dis, tu gardes tes problèmes, mais je prie pas. C'est un signe de rébellion, c'est un signe d'esclavage. Et il y a de plus en plus de chrétiens qui commencent, si vous en connaissez, ma foi, c'est pas eux qui vont m'envoyer les félicitations, mais je sais que derrière, il y a une puissance. Je le dis en passant, tout simplement pour aider. Parce que vous pouvez prier pour une délivrance, hein. À moins que vous ayez reçu plus que moi. Moi, je prie pas. C'est comme le pardon, du reste. Il faut que ça marche. Il faut qu'on y arrive. Alors, j'arrive pas à faire ce que Dieu attend de moi. Ce qu'on demande de moi. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Je suis en rébellion. J'en vois tout péter. C'est le langage des jeunes. Hein, ils le comprennent. C'est le balancier d'un côté qui y va, pas d'adéquation entre le légalisme et toute cette exigence des parents et du vécu. Est-ce que vous savez qu'il y a des recherches qui ont été faites? Il y en a un mot qui m'échappe. Des statistiques. Merci. Des statistiques qui ont été faites dans tout le monde évangélique. Ça veut dire les assemblées, tarbistes, mennonites, toutes les assemblées. Confessante, les réformés étaient pas très heureux d'être pas pris en considération. Plus de 60% des adolescents ont abandonné la foi à cause de l'attitude des parents et de l'Église. Ils en ont ras le cake. Il faut qu'on redécouvre un évangile de puissance. Et alors, si je suis en rébellion, si je vois que les exigences sont trop loin, trop grandes, eh ben, je dis, tout simplement, la conclusion, je suis nul, et puis j'y arriverai jamais. Imaginez un club de foot, un descendeur de ski, ou un tennisman, qui, au moment d'entrer, va dire, je vais perdre. Eh ben, c'est garanti qu'il va perdre. Parce que, il aura la réponse de ce qu'il croit. Mais nous, Dieu dit, tu dois gagner. Si tu n'arrives pas à faire, alors tu n'y arriveras jamais. On essaye de tout faire pour être aimé de Dieu. C'est tout faux parce que avant la fondation du monde, je te connaissais et je t'aimais. Dieu aime Saddam Hussein, la même chose qu'il m'aime et qu'il aime Anna, Ronnie ou Fernando. Mais la différence, c'est cet amour. Bien sûr qu'il y a un moment comme avec Pharaon où Dieu rejette, ça je le sais. Mais je vous donne cet exemple qui est extrême. Pour vous faire comprendre que Dieu t'aime. Quoi que tu fasses, avant tu étais sous le royaume ou la juridiction du royaume des ténèbres, maintenant tu es dans la lumière. Alors vis comme quelqu'un qui est dans le royaume de la lumière. Vis, que ta vie soit la preuve que tu marches dans le royaume de la lumière. Et alors là, le Dieu va agir. Et quand l'ennemi vient te dire, tu n'y arriveras pas, t'es nul, t'as aucune valeur, il y a un désir en moi de ne plus exister. Tu as tout fait. Tu as prié, tu as jeûné, tu as confessé, tu as lu des bouquins, tu as lu des livres. Pourquoi on n'est pas guéri? Ça, alors c'est garanti pour augmenter la foi, ça, hein. un livre qui te dit pourquoi on n'est pas guéri, là tu auras, ça te lève. Merci Seigneur pour ceux qui l'ont écrit, qui aident ceux qui ont besoin. Si on écrit, hein, si vous avez écouté des messages en disant il faut crucifier la chair, c'est vrai, mais bon voyage les amis. Jusqu'à 41 ans, j'ai crucifié la chair. Bon voyage. Si vous essayez, vous, de le faire, mais si le Seigneur descend, vous libère, vous remplit de l'Esprit, et que vous comprenez que vous devez porter du fruit, vous allez comprendre que la sanctification, c'est pas vous qui allez la faire, mais c'est lui qui, au fur et à mesure que vous allez obéir, vous allez peser sur le bouton qui dit oui ou non. Si vous êtes dans la dimension de ceux qui disent il faut crucifier la chair, vous allez mourir dans tout ce qui vous empoisonne. Vous n'aurez jamais, jamais, jamais la victoire ou des mini-victoires qui vous seront ravies. C'est lui qui purifie. Lorsque j'obéis, lorsque je vais, il me montre au travers des personnes qui viennent me voir et qui témoignent. J'ai grandi comme ça, en voyant les couples, en voyant des hommes, des femmes. Je disais, mais Dieu, tout ce qu'ils ont là avec ma femme. Et dans mon cœur, je disais, Dieu, je vais le régler après qu'ils sont partis. Et quand ils étaient loin, on se mettait en règle avec ma femme sur des différentes choses. J'ai grandi comme ça. En voyant l'autre, tu te vois. Parce qu'on est tous des pécheurs sauvés par grâce. Et c'est ce Seigneur de gloire qui est là, qui veut te délivrer, qui veut te sortir. Il te dit ce matin, sors de ton tombeau, sors de ta géole. Sois quelqu'un qui est dans la lumière, qui va briller, qui va porter du fruit, le fardeau que Dieu va mettre sur toi. C'est un fardeau des âmes, c'est le fardeau des couples qui sont cassés, le fardeau de tous ceux qui n'ont aucune espérance et qui n'ont que d'aller voir vers des guérisseurs. Il faut que nous ayons la contrepartie. C'est facile de dire, va pas là-bas, c'est un guérisseur, et tu fais quoi pour lui? Tu fais quoi? Tu dis, va pas là-bas, c'est pas bien, mais mon Dieu est un Dieu puissant, je vais prier pour toi. C'est ça l'évangile. On dit, non, mais on apporte quelque chose. Ça me paraît simple. C'est un évangile de puissance. Je suis nul, alors à quoi bon exister puisque je suis nul? J'avais des pensées de suicide. Je l'aurais jamais fait, mais elles étaient au premier degré. Dieu, la vie est si difficile. Et pourtant, je riais. Il y a quelques années, Dieu m'a parlé à mon cœur. Lorsque j'ai vu une femme, mais belle dans le Seigneur, comprenez ce que je dis, une femme rayonnante, et le Saint-Esprit me dit ceci, je pointe mon doigt amicalement contre elle, je lui dis, ma sœur, ton visage rit, mais ton cœur pleure. Elle s'est effondrée. Elle m'a dit, tous les pasteurs, tous ceux qui sont occupés de moi, personne, personne a vu mon cœur. On a vu le masque. Nous fonctionnons beaucoup avec des masques. C'est le temps que les masques tombent. C'est le temps où l'Esprit va changer les vies. C'est facile d'avoir... Oh frère, comment ça va? Ça va bien. Vous allez chez quelqu'un, il y a balle au château, ça va pour traduire. Ça veut dire que ça va pas trop bien, on vient de se crêper le chignon. Pour les traducteurs, ça veut dire que on se bat bec et ongle avec la parole de Dieu. C'est un problème, une scène de couple avec la Bible. Et quelqu'un arrive, on dit « Ah bonjour, comment ça va ?»« Oui, 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 tout va bien, tout va bien. » Vous ne connaissez pas ça, nous on connaît un petit peu, maintenant c'est fait. Hein. Non, on n'a quand même pas, mais c'est ça les masques. Il faudra dorénavant oser être. Et puis alors, un des derniers wagons, il y en a tellement, tellement, c'est un harcèlement continu dans les pensées. Moi j'avais ces pensées de mort, je ne les aurais pas fait, mais je disais, Dieu, la vie est trop difficile, reprends-moi. C'est une manière élégante de dire à Dieu, je me suicide pas, parce que c'est quand même pas bien, mais toi, reprends-moi, j'en peux plus. C'est valable pour les fausses couches. Non, l'avortement, dit Dieu, je peux pas avorter, mais toi, tu peux le reprendre. On prie pour qu'il y ait une fausse couche. Si vous avez fait ça tout à l'heure, fonctionnez, l'ennemi a un droit sur votre vie. C'est pas un gentleman, c'est un bourreau. Jean 10:10 le dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Il reste plus rien après. Ça, c'était ma vie. Alors, si tu te sens, au travers du légalisme, pas aimé de Dieu, t'es pris. T'es complètement ficelé. Et il y aura pas. Les exigences sont beaucoup trop grandes. et tu pourras, t'es complètement coincé. C'est souvent ça avec des enfants de leaders, avec des enfants de pasteurs, de personnes qui avaient des places importantes, parce que l'enfant n'a pas pu s'épanouir. Il devait donner à l'église l'image que c'était une famille parfaite. Et puis, j'en ai vu, avec des suicidaires. Une, elle a été, elle s'est donnée à 15 ans un coup de scalpel ici, du bleu de méthylène. Vous seriez étonné de savoir qui c'est. Dans une école biblique importante, la fille, bon, vous pouvez pas savoir, il y a la Suisse, il y a la Belgique, il y a tous les pays francophones. Elle a dit, Satan, je te donne ma vie. Elle est descendue en enfer. Une fille de pasteur qui aimait le Seigneur, parce que il n'y avait pas l'adéquation dans la famille. Alléluia, Seigneur, tu nous transformes. Qu'on puisse donner à nos enfants une image. Oser dire qu'on ne sait pas, oser dire qu'on se trompe, oser demander pardon. Voilà, tous ces problèmes d'identité, pas aimé de Dieu, j'y arrive plus, ça vaut plus la peine. Alors on arrive gentiment au plat de résistance. Vous verrez quand je retrousse mes manches, il y a quelque chose en moi qui est très satisfait. C'est peut-être bien d'essayer de vous situer un tout petit peu. Ceux qui sont fidèles à Soteria, ils savent très bien. Donc tous les mois, on a une séance de délivrance collective. Moi, j'arrive plus. On a des quantités de téléphones et on n'arrive plus du tout. Là, hier matin, j'avais encore un téléphone de Bretagne d'une femme. J'ai dit, mais je ne sais pas où vous envoyer, ma pauvre. Venir ici, ce n'est pas évident. Alors, il y a tous les problèmes d'ordre émotionnel. Il y a tout ce qui est mental, l'indécision, le compromis, la confusion, perte de mémoire avec l'âge, donc ça vient gentiment. Ça arrive, hein? Deux verres pour les dents sur la table de nuit. Un porte-perruque. Tout ce qui est en rapport avec les paroles, le mensonge, la malédiction, toutes ces pulsions sexuelles, ces flashs, tout ça, la dépendance, alcool, certains aliments, les médicaments, le tabac. Dès que vous êtes pris par quelque chose, il y a des migraines, beaucoup d'allergies qui sont les conséquences. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces esprits? Ils essayent de vous séduire dans la pensée. Ils essayent de vous tromper, de vous aveugler. Ils ferment l'homme à la vérité. Ils essayent d'asservir, Romains 8, 15. Il y a un esprit de servitude. Ils vous tourmentent. Il y a des gens qui vivent des choses horribles. Moi, le Seigneur a permis deux fois qu'on soit dans une maison hantée. C'est pas évident, hein. Nombre de personnes qui entendent des bruits, qui entendent des chaînes, qui voient des sceptres auprès du lit, qui ont des présences, qui sentent des souffles. Et ils osent pas le dire parce qu'ils vont les mettre dans des maisons. Ils osent pas en parler. Quand ils viennent, il y en a beaucoup plus que vous croyez. Ils sont autour de vous et Dieu te dit, est-ce que c'est pas le moment que tu te lèves pour aider? Une simple prière. Un partage. Que ces personnes puissent ouvrir leur cœur. Il y a toutes les... Vous voyez, donc, ils cherchent à tourmenter. Est-ce que vous savez que dans le monde des ténèbres, plus vous souffrez, plus il y a de tragédies, des morts, plus il y a de la joie dans le monde des ténèbres. J'ai des esprits qui m'ont dit, je pars pas, je le veux pour l'enfer, je le veux pour Satan. Et ils me le disent pas deux fois, parce qu'alors il y a une sainte colère en moi qui me fait claquer les dents, je vous assure. Si on veut me provoquer dans le monde des ténèbres, c'est dire, je le veux pour Satan. Moi, je le veux pour le Seigneur de gloire. Alléluia. Ils cherchent à déshonorer, mais c'est impressionnant ce que les hommes et les femmes peuvent faire. Forcer à faire un homme intelligent, je ne sais pas combien de doctorats, il était obligé de se mettre tout nu pour aller faire quelque chose dans son gazon. Il était obligé de le faire. Une souffrance pas possible. Bien sûr que c'est à des gens un peu plus grands, hein. Ils cherchent toute l'immoralité, tout ce qui est sexuel, tout ça, on sait bien tout ce qui vient là derrière. Ils cherchent à dominer, à manipuler, culpabiliser, rendre coupable. Ça, c'est une des composantes des esprits religieux. C'est jamais juste. Tu vas à gauche, c'est faux, tu vas à droite, c'est faux, tu vas là, c'est faux, tu vas là, c'est faux. Tu fais quelque chose, c'est jamais juste. Ça, c'est typique de l'esprit religieux. Mais sois heureux. Plusieurs fois, le Saint-Esprit m'a dit, dis à cet homme, dis à cette femme, Dieu est tellement satisfait de ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Il t'encourage, il est content de ce que tu fais, mais il veut te donner encore plus. Tandis que l'ennemi met toujours le doigt sur ce qu'on ne fait pas. et il n'y a que les cassettes négatives qui viennent à l'esprit. On se souvient tellement de ces choses négatives, alors que le Seigneur veut t'encourager. Ce matin, il est là. Il est là. Arrête de lécher tes plaies. Même dans les premiers bancs à l'église où tu lèches tes plaies, personne ne voit rien. Il est là. Le consolateur. Celui qui délivre, celui qui guérit. Combien de guérisons instantanées lorsque les esprits partent. Il veut ta vie, mon frère, ma sœur. Il veut celle de ton mari ou de ta femme, de ton couple. Il veut ta famille, il veut ton travail. Il veut ta santé. Il veut. Dieu t'a donné les armes. En Éden, il a dit, tu écraseras la tête du serpent, lui te mordra. Église, en Éden, Dieu dit, tu es dans un combat dont tu ignores la portée. L'ennemi est là, il va te mordre. Si un serpent mord, tu meurs. Il y a la mort, il y a la maladie, il y a la souffrance. Et Dieu dit, tu lui écrases le talon. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance. Mais avant d'entrer dans ce combat, ouvre ton cœur pour que Dieu puisse te délivrer de ces esprits impurs et méchants. Les esprits viennent sur le fœtus. Je connais un homme et je connais les parents et je sais qu'au moment de la conception, il s'est jeté sur sa femme comme une bête, comme un taureau, c'est grave. Et l'enfant, quand il était adulte, lorsque j'ai prié pour lui, en sachant ce qu'il en était, j'ai prié pour ce qui est venu au moment de la conception. Il y a eu une délivrance terrifiante. Les esprits viennent sur le fœtus, ils viennent à la naissance, ils viennent sur les prématurés, sur les enfants qui sont mis de côté, abandonnés, les enfants maudits, où les mères se sont battues. Mais j'ai situé le fruit de tout ce que je dis, j'ai une bonne nouvelle. C'est que Dieu t'aime tellement, il t'a tellement aimé, qu'il a tout fait pour que tu viennes à la vie et que tu sois qui tu es. Donc oublie le passé. Mais l'ennemi a des droits, il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte. Les erreurs des parents battus injustement, t'es nul, t'es con. C'est ce que j'entends, tu n'y arriveras jamais. Toutes ces choses donnent au prince des ténèbres. Ce n'est pas la psychologie qui va vous sortir de ces problèmes. Ça va vous aider, ça va vous aider. Mais il y a la délivrance parce que Dieu a dit, libère les captifs, chasse les mauvais esprits. Et sur les chocs émotionnels, mes amis, les esprits viennent sur les chocs émotionnels. Sur les comas, sur les narcoses qui ne sont pas couvertes par la puissance de la prière. Les esprits viennent. On me dit souvent, mais alors, les crises d'épilepsie. Eh bien, celui qui fait une crise d'épilepsie, il est ouvert à recevoir les esprits si quelqu'un n'est pas là pour le faire. Quand quelqu'un meurt encore, quand quelqu'un meurt dans votre famille, prenez autorité pour que les esprits du défunt ne viennent pas sur les membres de votre famille. C'est une hygiène que Dieu veut que nous fassions d'une manière sûre et puissante. Jésus est vainqueur. Les pratiques occultes, les films occultes, les films d'abomination, la pornographie, toutes ces choses sont des portes. Les péchés occultes des ancêtres sont la conséquence de ce que vous vivez. La conséquence, c'est ce que vous vivez, de ce que vous avez fait. Et il y a une prière spécifique. Lorsque l'Église, et le but de Soteria est de former des ministères de délivrance dans toutes les Églises, nous travaillons le plus possible avec l'Église pour que vous soyez libérés et que vous puissiez aller au combat. Qu'est-ce que vous diriez d'un chirurgien qui arrive avec les mains pleines de cambouis? Qu'est-ce que vous diriez d'une infirmière qui vient avec des seringues qui ont été utilisées pour un sidéen, ou quelqu'un qui a l'hépatite, ou quelqu'un... Qu'est-ce que vous diriez? C'est exactement la même chose en un... Touche pas au royaume des ténèbres, n'importe comment, sans recevoir des coups. C'est pour ça qu'il y en a, il y a déjà des morts, il y a des accidents, et puis on dit, oh mais j'ai attaqué le monde des ténèbres, donc c'est normal. Soyez bien assurés. Le monde des ténèbres a très souvent bon dos. Alors, il y a bien sûr tout cet esprit de graisse que je vais attaquer dans la prière, et... Ça va, vous avez le trouillomètre à zéro. Pour la traduction, avoir peur. Les amis, quand il y a une naissance, c'est douloureux pour la mère, pour le père aussi, mais enfin, c'est différent. Mais après, c'est la joie. Il y a la vie. Il y a l'espérance. La souffrance. Les quatre fois que ma femme a donné un enfant, il y en a un qui est là, il y en a un qui est là. Il y a une belle fille qui est là. Il y a une petite fille là-bas qui est, elle est toute belle. C'est la plus belle de toutes. Mais il y a tellement de joie et d'espérance après la délivrance. On parle de la délivrance pour une naissance. Soyez décontractés. C'est quoi décontracté? Il faut être décontracté comme pour les piqûres. Première fois que j'ai fait une piqûre à un véro, la seringue était comme la pointe d'un sabot. J'avais l'impression que je vais avoir touché un os. Eh bien, si je faisais des piqûres, il y en a un point qui viendrait vers moi. Vous seriez guéri avant. Il faut être décontracté. Vous allez entendre des cris, des pleurs, mais c'est pas la personne, c'est le monde des ténèbres. Alléluia, Dieu est bon. C'est un rendez-vous, le rendez-vous que tu as avec le roi de gloire qui veut te libérer. C'est bon? Vous êtes prêts? 2,50 francs, c'est à la fin si ça réussit. Hein? Seigneur, tu es grand. Je prie et puis je prie pour vous. Ensuite, vous dites Amen si vous êtes d'accord. Ouais, des fois, les gens qui disent Amen, mais ils sont quand même pas contents, ils sont pas d'accord. Mais enfin, ça, c'est entre vous et Dieu, hein. Père, tu es un Dieu glorieux, tu es un Dieu juste, un Dieu saint, un Dieu bon. Tu as pas envoyé Jésus mourir à la croix pour qu'on soit misérable comme on l'est si souvent. Tu as pas envoyé Jésus pour que tes promesses se réalisent pas. Tu as pas envoyé Jésus pour nous laisser dans l'état où nous sommes. Dieu, tu es bon, tu es grand, tu es saint, tu es digne de louange. Il y a une chose que tu peux pas faire, c'est de mentir face à tes promesses. Hébreux 6 le dit, Dieu peut pas mentir face à ses promesses. Nous, on est libres de prendre. Tu touches pas notre volonté, nos choix. Je l'ai dit, les boutons de l'ascenseur sont à l'intérieur. Père, glorifie Jésus au travers du Saint-Esprit et que ton peuple puisse vivre quelque chose avec toi de différent. On est dans un contexte prophétique, mais tu as prophétisé que les captifs seraient libérés. Merci pour l'action de ton esprit maintenant. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, on ouvre nos cœurs. On ouvre nos cœurs. Merci pour ta puissance. Sonde-moi, remets à la mémoire si je dois demander pardon à quelqu'un, afin que ta puissance de libération puisse se manifester. Tu as dit, pardonnez comme je vous pardonne. Alléluia. Seigneur, on te demande pardon pour nos fautes, celles de nos pères. Nous vivons dans un monde inique. Tous, sans exception, on a fait des choses abominables à tes yeux. Et la religiosité est une abomination. Le contrôle est une abomination. Les œuvres sont une abomination parce qu'elles enlèvent toute la puissance de la croix. On demande pardon pour toutes les alliances qui ont été faites dans les ténèbres. Et on renonce ensemble. On veut vous dire, vous esprit impur et méchant qui me tourmentez, vous devez sortir maintenant. Sortez au nom puissant de Jésus. Sortez, vous m'avez fait assez souffrir. Je vous hais. Je vous hais. Vous devez lâcher, vous m'avez fait assez souffrir. Merci Dieu, libère-moi. 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 Amen. Je vais vous dire encore juste une chose avant de prier. Au mois de décembre, j'étais au Burkina Faso, comme je l'ai dit tout à l'heure, et dans une grande église qui n'était pas à Ouaga, j'ai dit ce que je vous dis maintenant. Ça veut dire que hier, Fernando vous a dit d'aspirer. Ben, si on aspire, il faut bien expirer de temps en temps. On aspire le bon, puis on rejette le gaz carbonique spirituel. Il a dit qu'on était du gaz, hein, hier. Le meilleur moyen de vivre une délivrance, donc c'est facile de recevoir le Saint-Esprit, je me remplis de toi, et le meilleur moyen c'est de faire des grands soupirs. Souffle en grec et en hébreu, esprit c'est souffle. Donc vous participez. Au Burkina Faso, une femme est venue le matin, elle m'a dit, quand je priais, il y a un esprit, quand tu as dit soufflé, un esprit qui m'a dit tout ce que le blanc, quelque chose dans ma tête, elle n'a pas dit un esprit, une voix dans ma tête m'a dit tout ce que le blanc a dit est juste. Il te suffit tout simplement de dire amen, mais tu ne souffles pas. Alors elle a obéi. Et le lendemain matin, elle vient vers moi, elle dit, je suis malade à crever. Hier soir, quelque chose s'est manifesté, j'ai écouté cette voix et j'ai obéi. Et elle avait fait 3 avortements qu'elle n'avait jamais partagés, donc c'est pas que c'est pire que quelque chose d'autre. Et je lui ai dit, maintenant tu souffles. Et en 2-3 minutes, elle était libérée. Donc le fait de souffler fait que votre volonté se met en action avec ce que je dis. C'est un acte de volonté, vous faites quelque chose. Si vous levez la main pour la conversion, de nouveau Dieu écarte pas les nuages en disant, Hivernon, c'est impressionnant. Il lève les mains, moi je suis impressionné. Pour lui, d'autres choses. Mais vous avez un acte, vous faites quelque chose, vous vous levez, vous faites une démarche, on fait des démarches prophétiques qui sont valables à vous, faites une démarche de dire, maintenant, toi qui es en moi, tu sors. Le grand problème, c'est qu'une partie importante, celui qui grimpe au palmier, je dis ça parce qu'il n'y en a pas là, il sait qu'il a besoin de délivrance, mais une partie importante de ceux qui sont délivrés ne savaient pas qu'ils avaient besoin de délivrance. Et en particulier pour les esprits religieux. Moi, jamais j'aurais pensé que j'avais besoin de délivrance. J'aurais été délivré par la mort, mais ce n'était pas le but de Dieu. Alors, faites quelque chose, on va prier. Je ne vais pas faire ça une éternité. Je vais prier, on a assez de temps. Peut-être que vous n'êtes pas attendu une séance de délivrance, mais c'est pas la convention, c'est pas une conférence. Je reprends ce qu'Anna a dit. Pour vous, ce matin, c'est le rendez-vous avec Dieu où il va vous libérer. Ça ne dépend pas de vous, de moi, ça ne dépend pas de Dieu. Votre propre délivrance dépend de vous. De la manière dont vous allez accorder vos pensées avec vos tripes pour dire maintenant, ras-le-cake, j'en ai ras-le-bol, ras-la-patate, tout ce que vous voulez. Assez souffert, j'ai assez souffert. Sortez maintenant. Que vous soyez des esprits ou pas, je m'en fous complètement. C'est français courant, mais on comprend. Et vous, prenez vos mâles. Lâchez. Ça va? Il faut fonctionner tout de suite, hein, parce qu'autrement le prix va augmenter. Hein, si c'est... Merci Seigneur. Alléluia. Vous ne regardez pas ce qui se passe. Restez assis, c'est mieux. On peut prier assis. Allez, dans une attitude toute simple, décontractée. Et vous, au fur et à mesure que je vais prier, vous lâchez prise, vous faites, on va faire lâcher prise l'ennemi. Avec autorité maintenant, par la puissance du nom et du sang de Jésus, je lis tous les esprits méchants qui commandent dans le monde des ténèbres. Je sème la zizanie dans le camp de l'ennemi. Je vous interdis avec autorité de demander de l'aide à des puissances supérieures ou de communiquer les uns avec les autres. Je sème la zizanie dans votre camp. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, merci d'un manteau prophétique et apostolique de protection sur ton corps, sur les enfants, les petits-enfants, au nom de Jésus. Alléluia. Esprit qui tourmentait le peuple de Dieu, vous sortez maintenant. Sortez au nom de Jésus. Allez-y, poussez-les, toussez-les direct. Sortez. Esprit qui tourmentait, vous sortez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sortez, esprit impur qui tourmentait. Vous sortez, vous êtes vaincus. J'ai autorité sur vous. Sortez, il y a des personnes qui sont là, qui vont vous aider. Il y a des personnes hein, qui sont dans le coup, qui peuvent vous aider. Alléluia, c'est l'équipe de Soteria qui ont l'habitude. Sortez maintenant, les esprits qui tourmentaient, vous sortez. Sortez, esprits impurs et méchants qui tourmentaient. Les esprits religieux, vous lâchez prise. La religion qui tue, ça sort maintenant. Ne faites rien, ne gémissez pas, toussez-les, c'est une ruse de l'ennemi de chantonner. Il y a une femme qui chantonne là, allez, poussez-le dehors, toussez-le. C'est des ruses de l'ennemi, sortez maintenant. Esprit qui tourmentait, vous lâchez prise. Au nom de Jésus, fonctionnez. Les esprits religieux, vous lâchez, vous sortez. Au nom de Jésus. Sortez, Vincent, va prier aussi, Anna. Allez prier. Au nom de Jésus, où il y a des manifestations, simplement imposez les mains. Sortez maintenant, esprit qui tourmentait, vous sortez. Le légalisme, la loi qui tue. Le rejet à cause du légalisme, rejet de soi. Peur d'être rejeté, le rejet de Dieu. Ça sort maintenant, sortez au nom de Jésus. Sortez, vous êtes vaincus, allez-y. Vous fermez la bouche, il n'y a rien qui veut partir. Vous n'allez pas grimper les murs, on contrôle. Au nom de Jésus, sortez, esprit qui tourmentait. Vous sortez maintenant, au nom de Jésus. Vous retournez au pied de Jésus. Au pied de Jésus, vous retournez maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Sortez maintenant, esprit qui tourmentait, vous sortez. Sortez, toussez-les. Toussez-les, au nom de Jésus, ça part maintenant dans le nom de Jésus. Sortez, esprit qui tourmentait, dans le nom de Jésus. Vous lâchez, Armin, vas-y aussi, au nom de Jésus. Vous sortez, sortez dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, les deux Matthéus aussi, allez avec quelqu'un là, vous priez, il y a beaucoup de délivrance. Sortez maintenant, esprit qui tourmentait, le légalisme, la loi qui tue, ça part, le perfectionnisme, ça part. Au nom de Jésus, sortez dans le nom de Jésus, ça part, sortez, tout ce qui fait l'économie de la foi, la peur de ne pas être dans la dimension de Dieu, la peur que Dieu, les peurs des peines éternelles, la peur de ne pas assez travailler pour Dieu, tout ça, ça quitte maintenant. Sortez dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, alléluia, ça quitte maintenant, sortez au nom de Jésus, ça part. Poussez-les dehors, ne vous occupez pas, vous n'êtes pas des spectateurs. Allez-y, vous n'êtes pas épargnés, personne ne passe entre les filets. On a tous été matraqués par ce monde, au nom de Jésus, ça part. Sortez le perfectionnisme, l'insatisfaction, le fait d'avoir peur de ce que Dieu va me demander. C'est pas assez bien, jamais assez bien. Tout ça, ça doit partir, même si c'est bien. Tout ce qui coupe la relation avec Dieu, ces esprits religieux, vous partez. Le légalisme, ça quitte maintenant, ça part au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qui vient dans vos oreilles de négatif, c'est toujours négatif, toujours négatif. Dégagez-vous de ces esprits qui vous tourmentent, qui enlèvent la bénédiction. Ça doit partir maintenant. L'orgueil spirituel, le fait de se croire meilleur que les autres au travers du légalisme. Au nom de Jésus, c'est un paradoxe, ça part. Toutes ces puissances doivent partir. Sortez maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Toutes ces choses qui vous semblent banales, insignifiantes et qui sont quelque chose pour Dieu parce que l'ennemi vous vole. Toutes ces choses partent maintenant. La colère, colère contre vous-même, colère tournée contre les autres. Tout ce qui est venu sur les chocs émotionnels, ça part. La colère, la violence, tout ce qui est venu sur les chocs émotionnels. Allez-y, toussez-les, au nom de Jésus.